pouvoir d'agir en tiers lieux. C'est le nom d'un programme de la Fondation de France auquel nous participons à l'Ermitage depuis 2022 aux côtés d'autres tiers lieux en France. L'Ermitage, c'est un domaine de 30 hectares situé à Autrèche, un petit village de l'Oise limitrophe de l'Aisne. Il a été racheté par un collectif d'entrepreneurs sociaux il y a 8 ans pour y développer diverses activités, notamment d'hospitalité. Nous y accueillons près d'une centaine de groupes par an en séminaire d'entreprise. Et moi, c'est Armelle. Je m'occupe avec d'autres de l'association d'intérêt général active sur le site. Elle propose des activités menées pour et avec les habitants de la vallée de l'Ozier, autour du bois, de son café associatif et d'un atelier doté d'un Fab Lab, avec le souhait d'être le plus possible utile à son territoire et ceux qui y vivent. C'est une association qui crée du lien de proximité avec la conviction que c'est dans ces lieux ouverts que se construisent nos communautés de vie et le monde de demain. Notre bois fait 20 hectares. On l'appelle le bois de la justice. Il est situé au carrefour des trois hameaux du village, ce qui en fait une destination toute trouvée pour les promenades du quotidien, entre autres. Le programme de la Fondation de France nous a permis d'aller à la rencontre et de faire se rencontrer différents usagers du bois et de commencer à poser les bases d'un futur commun forestier d'usage. Nous avons organisé des ateliers, des événements, mené ensemble des chantiers participatifs. Aujourd'hui, en 2025, nous continuons à avancer avec l'aide d'un plan simple de gestion agréé par l'État et d'une charte d'usage qui pose les règles du vivre ensemble dans ce bois. Avec nos partenaires de pouvoir d'agir en tiers-lieu, nous avons choisi de raconter nos cheminements de manière sensible, en allant à la rencontre des personnes qui font vivre le projet. Je vous propose donc de m'accompagner et d'écouter avec moi les personnes qui fréquentent ce bois et s'y investissent. Nous allons d'abord rencontrer Jean et Jean-Marc, qui sont à l'initiative du projet d'ouverture du bois et du commun d'usage. Et ensuite, nous irons recueillir les témoignages de différents usagers. Allez, c'est parti!
Je m'appelle Jean Carinti, j'ai 50 ans. Je suis un des responsables de la reprise du site de l'Ermitage depuis 2017 et je suis actuellement le président de la coopérative, la société coopérative qui gère le foncier de l'Ermitage. Je suis également responsable du développement de l'ensemble du projet. Moi, j'ai grandi ici, donc je connais un peu le site. Je connais plutôt bien le bois puisque ça a été mon terrain de jeu pendant une bonne partie de mon enfance et qui est le terrain dans lequel je manifeste le plus d'intérêt aujourd'hui dans le projet. Moi, je suis né dans la maison du pavillon de Jasse. C'est-à-dire que ma maman, quand elle est rentrée de la maternité, mes parents habitaient là. J'avais déjà trois frères aînés. J'ai une petite sœur ensuite qui est née là aussi. Donc moi, mes cinq premières années, c'était dans cet environnement forestier. Ce qui, à mon avis, marque quand même beaucoup la psychologie. Moi, j'ai un souvenir d'enfance très heureux dans ce bois, à jouer avec mes copains, à vraiment apprécier les différentes saisons. Et j'y suis très attaché, je pense, de ce fait. J'ai un lien particulier à ce bois. Ce bois, en fait, je pense qu'au départ, il avait été designé par le premier propriétaire comme un bois de chasse. Je pense qu'il n'a vraiment pas été bien envisagé au départ. Comme c'est un ancien champ de bataille, ça donnait une dimension particulière au type de peuplement et au type de bois que ça représentait. Je pense qu'au moment où l'Ermitage a acheté la ferme Saint-Victor juste au-dessus, en 1970, ils ont commencé à utiliser le bois principalement pour des besoins des cavaliers qui apprenaient à monter à cheval. Mais ils n'ont jamais eu de plan de gestion de ce bois. Ils n'ont jamais exploité le bois. Ça ne présentait pas d'intérêt pour eux. Donc ce bois, il a été grosso modo quasiment en libre évolution depuis son développement à partir des années 20, après la Première Guerre mondiale, jusqu'à ce que nous, on le reprenne. Donc moi, la première question qui s'est posée, c'est de savoir s'il y avait une opportunité de gérer ce bois Est-ce qu'il y avait des enjeux de revenus potentiels? Puisque quand on questionne le modèle économique d'un site comme ça, on s'interroge quand on a du bois. Donc il a fallu que je trouve de l'expertise. Et assez vite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre enjeu qui était son usage déterminé à l'avance par les gens du village. C'est-à-dire l'accessibilité. Les gens avaient des habitudes. Et on a questionné un peu tout ça, petit à petit. Et on s'est rendu compte que c'était quand même un outil assez intéressant dans le lieu, que c'était un sujet intéressant, la gestion forestière partagée. La chasse est venue assez rapidement sur la table. Est-ce qu'on gardait ou pas une convention avec les chasseurs du village? Est-ce qu'on intégrait ces chasseurs dans plus grand qu'eux? Parce qu'il y avait certains anciens de l'Ermitage qui avaient des appréhensions quant à la chasse. Il y avait des pratiques, c'est-à-dire il y avait 3 battues autorisées par an aux chasseurs du village. Et le fait que nous, on reprenne ce site et qu'on lui donne des nouveaux usages, enfin, ça a un peu secoué le cocotier, quoi. Et donc tout ça, il a fallu qu'on le mette en ordre pour que les chasseurs, autant que d'autres types d'usagers qu'on souhaitait voir venir plus formellement, puissent vivre en bonne intelligence. Et c'est là que finalement, de manière un peu empirique, le projet de commun forestier a émergé. Et en fait, plus on tire le fil, plus on se rend compte que c'est un enjeu important pour l'Ermitage et une expérimentation sociale intéressante et écologique aussi.
Je suis Jean-Marc Pénaud, j'ai 62 ans, je suis expert forestier, donc je suis à mon compte, je m'occupe des forêts pour les particuliers ou les personnes morales et les collectivités.
La chose qui est importante à dire, c'est que la rencontre avec Jean-Marc Pénaud, elle a donné une forme de légitimité à la démarche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une rencontre au sens où moi, j'ai mon idée et tous mes a priori, alors que je ne suis pas du tout gestionnaire forestier, pas du tout expert forestier, je ne suis pas du monde de la forêt, même si j'ai une appétence, une envie d'aller vers. Et il fallait quelqu'un qui se mette en face de moi et qui me dise « Ok, moi, je suis expert, ça, c'est du délire, ça, c'est idiot, ça, oui, c'est une bonne intuition. » Et donc, le fait que Jean-Marc accepte de rentrer dans cette relation avec l'Ermitage et de finalement prendre à son compte l'enjeu de la gestion de ce bois dans le cadre de son périmètre de responsabilité qui est une expertise technique, pour moi, ça a changé les choses parce qu'on a commencé à avoir un dialogue, en fait. Et ce dialogue a permis de mettre l'ensemble des usages en débat.
J'étais président bénévole de la Caisse locale du Crédit agricole du canton. L'Ermitage en était à ses débuts et a déposé un dossier d'aide auprès du Crédit Agricole. Le sujet nous a intéressés. Il y a eu un concours que l'Ermitage a gagné. Comme je suis curieux, j'ai été à l'Ermitage. J'ai rencontré toute l'équipe et j'arrivais au bout de 10 ans que je m'étais donné de bénévolat au Crédit Agricole. C'était un beau challenge d'essayer d'accompagner sur la partie que je connais, c'est-à-dire les bois de l'Ermitage, toute l'équipe qui se mettait en place à Autrèche. On est venu pour voir pourquoi il avait besoin de ce matériel, est-ce qu'il était adapté au travail qu'ils pensaient lui confier. Et donc ils avaient bien étudié leur truc, ils étaient au niveau technique et budget et devis, ils avaient fait ça de façon très professionnelle. Donc le projet semblait utopique, mais avec des gens qui avaient les pieds sur terre, qui avaient du vécu, qui étaient très complémentaires dans leur mission, dans leur savoir-faire, dans la façon dont ils le mettaient en place. Ils s'entouraient de gens venus d'endroits un peu improbables, aussi bien la ville de Paris que des gens qui venaient de fin fond des régions françaises. Et j'ai trouvé que ça serait bien d'avoir un lieu comme ça qui allait mettre un peu de vie différente dans le canton. Il y avait surtout Jean qui était intéressé par le bois et qui voyait ce qu'on pouvait en faire avec une création de liens sociaux autour du bois. Les autres, ils avaient tellement de projets en tête, pour eux c'était une annexe. J'ai essayé de leur dire que ça pouvait être très important par rapport aux tiers-lieux. La plupart des tiers-lieux, ils sont en milieu, à l'époque, ils étaient surtout en milieu urbain. Et là, on avait quelque chose en plus par rapport à tous les autres, c'est qu'on avait un bois par rapport aux autres qui avaient surtout du bâti, quoi. Et donc on pouvait se différencier en se lançant un challenge pour que ça devienne ce qu'on a appelé plus tard un commun forestier. On ne le savait pas à l'époque. On savait juste qu'il y avait un endroit avec plein de possibilités, que c'était un peu abandonné, que c'était un peu... Certaines personnes se l'étaient appropriées et nous, ben, fallait essayer de remettre un peu d'ordre dans tous les usages du bois qu'il y avait derrière les bâtiments de l'Ermitage.
Premier sujet, comment on régénère le bois? Alors, on régénère le bois en coupant le bois et en lui permettant de se renouveler. Donc ça, c'est des bûcherons. Tu as plusieurs types de façons de couper le bois. Et Jean-Marc, il a tout de suite dit, attention, ici, il faut des jardiniers. Hein. Il ne faut pas des grands chantiers forestiers. De toute façon, c'est un tout petit bois. Il n'y a pas grand-chose à en tirer économiquement. Donc, vous ne faites pas trop d'illusions. Ça ne va pas être un business. Vous n'avez pas gagné d'argent avec ça. Ce qui est contre-intuitif pour la forêt. Hein. Il nous a tout de suite mis le haut là en disant, fantasmez pas. C'est ça la rencontre, en fait. C'est d'avoir quelqu'un qui est dans le réel, qui est dans l'expérience et qui est dans la responsabilité et qui, en même temps, adhère à notre projet, qui est un projet innovant socialement, qui est de partager le bois.
En fait, dans les bois, moi, ce qui m'intéresse, c'est les rencontres humaines. Donc, les bois, ils sont à l'image du propriétaire, que ce soit une collectivité, une personne morale ou des personnes physiques. Maintenant, avec l'allongement de la durée de vie, même si c'est une personne privée, en même temps que le grand-père, dans les bois, il y a le père, il y a les enfants, il y a les petits-enfants. Et donc, avant de mettre en œuvre des programmes dans des bois, il faut essayer de mettre tout le monde d'accord sur les objectifs qu'on va y faire. Ben là, ce n'était pas des générations de propriétaires, c'était des usagers qui en avaient des objectifs différents. Et il fallait essayer de les mettre d'accord sur le programme qu'on allait leur proposer et le mettre en place.
Et le deuxième sujet, ça a été effectivement de mettre ça dans beaucoup plus grand. Et c'est là la rencontre avec PATL, qui est de dire, en fait, ce qu'on vit ici, est-ce que ça résonne avec d'autres types de pratiques, d'autres types d'usages, d'autres types de communs? Et ce programme, en fait, est venu au bon moment.
À l'avant, c'était un lieu abandonné, braconné. Et aujourd'hui, c'est un modèle en France. C'est-à-dire que là, avec Jean, on a été l'année dernière rencontrer les gens de la COP des communs et la charte qui a été mise en place et signée au mois d'avril, c'est la première en France. L'agent, dans 15 jours, il va, dans Haute-Loire, présenter la charte des communs et ce qu'il fait à l'Ermitage à tous les gens du sud de la Loire, parce qu'en France, il y a le nord de la Loire, il y a le sud de la Loire, et donc l'Ermitage, il est en train de conquérir le sud de la Loire avec ce qui a été fait dans le bois et dans les relations qui ont été mises en place au cours de ces 3 années. Le premier approche qui est essentielle et qui a été marquante, c'est toute la façon dont on a abordé les relations humaines qui étaient des conflits et qui sont devenues des partenariats. Il y a un savoir-faire à l'Ermitage, dans tous les acteurs, bénévoles ou historiques ou pionniers, c'est d'arriver à créer du lien social, partir d'un conflit, arriver à un compromis. Et le bout du bout qui me plaît beaucoup, c'est qu'il y a toujours des fêtes. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui est essentiel dans l'Ermitage, c'est on est parti de conflits et on fait la fête ensemble, des gens qui ont des relations improbables. Je me rappellerai toujours la première fois où il y a eu toutes les gens qui étaient les usagers du bois et qui ont fait connaissance avec chacune des opérations de chacun. Il y avait des gens qui étaient contre la chasse, qui étaient véganes, et le soir, on les retrouvait autour du barbecue en train de manger un filet de chevreuil. C'est quand même la plus belle chose et la plus belle réalité d'une relation réussie, quoi. Et ça, j'ai 40 ans de pratique du milieu forestier, j'ai jamais vu ça. Et 3 ans, pour les gens, c'est long. Pour un forestier, c'est court. Et voilà, donc on dit 36 mois. Et partir de vegan qui refuse de parler à un chasseur et de les retrouver autour d'un barbecue, c'est quand même tellement un modèle aujourd'hui dans notre société qui se retrouve que dans les conflits et dans chercher les différences, alors qu'à l'Ermitage, on cherche les compromis et ce qui va bien ensemble, quoi.
Je dirais que c'est un bon début. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a bien pris en considération, c'est le temps qu'il faut pour que les gens puissent apprendre à pratiquer ensemble, en fait. Donc, ça a été le pied à l'étrier. Mais il est évident qu'on a un long chemin à faire parce que si on veut inscrire ces usages dans le dur, que, y compris le cadre légal s'impose à travers cette charte, et qu'il y ait des droits et des devoirs qui puissent s'inscrire à long terme, au-delà de notre intention, il faudra beaucoup de temps. Et donc, c'est pour moi, le programme, il nous a permis de démarrer cette démarche et de commencer à donner, en fait, à voir ce que les uns et les autres percevaient du bois, des autres usages, et donc de commencer à créer une communauté. Ça nous a aussi permis de commencer à construire un agenda ritualisé. Il y avait une intuition, et puis bah là, maintenant, c'est bien mis en place avec le trail, avec la battue annuelle de chasse, les différentes saisons, en fait.
Mais en fait, nos usagers, qui sont-ils et qu'en pensent-ils? Daniel, Charlène, Gwendal, Ghislaine et Jean-Marc. Et oui, il y a un autre Jean-Marc. Claire Marine, Laurence et Marielle ont accepté de nous partager leur expérience du bois. Nous pensons bien sûr à tous les autres, mais ce panel d'anciens et de plus jeunes donne à voir la diversité de ce qui se vit dans ce bois, de leur point de vue et ce qui nous rassemble. Je leur ai demandé dans un premier temps depuis quand ils fréquentaient le bois de la justice et pour y faire quoi, s'ils avaient déjà rencontré des difficultés dans leurs activités, si notre démarche leur avait permis de rencontrer du monde, s'ils se sentaient faire partie d'une communauté.
Oh là, le bois de la justice. Moi, depuis 30 ou 40 ans, l'été en quad et l'hiver à la chasse.
Alors moi, je suis native d'Autrèche, donc je connais le bois depuis super longtemps. Depuis 40 ans. Et effectivement, avant, c'était un bois fermé. La grande différence aujourd'hui, c'est un bois ouvert. Et donc ça fait plaisir de pouvoir s'y promener sans craindre de se faire rouspéter parce qu'on est dans le bois. Et donc, je viens depuis le début, en fait, depuis que l'Ermitage a repris. Je viens essentiellement promener les chiens avec des amis. C'est un lieu que j'adore. Et puis, ça fait une boucle d'un kilomètre. Donc, ça permet, voilà, on sait que ça dure 20 minutes. On fait une boucle, deux boucles, trois boucles en fonction de nos envies. Et puis on rencontre personne, donc pour les chiens c'est totale liberté, ça c'est chouette aussi. Personne ou pas grand monde.
Je vais te dire, je fréquente le bois de l'Ermitage depuis les années 80 à peu près, depuis que je suis arrivé à Autrèche, par le côté de la chasse, côté promenade aussi un petit peu en famille. J'y chasse régulièrement. Chaque endroit, chaque fourré, chaque trou qui est dans lequel il y a eu les soldats de la guerre 14-18 qui s'y sont protégés, tous les chemins, pratiquement les bornes de propriété, je reconnais bien le bois de l'Ermitage. Puis après, depuis que ça a été repris, le niveau de l'Ermitage, j'y suis venu faire du bénévolat, je dirais, en élaguant les chemins de l'Ermitage et couper des arbres qui étaient en position dangereuse, quoi. Et surtout pour les usagers qui venaient s'y promener.
Depuis plus de 30 ans, puisque cela remonte à l'année où je suis arrivée à Autrèche, où j'ai commencé à travailler donc, dans le cadre de l'ONG CIDR, dont le siège était à l'Ermitage. Donc oui, même plus, bien plus de 30 ans, plutôt 40 ans, je dirais. Donc le bois, je le connais depuis toujours et je l'ai en effet pratiqué, surtout à titre individuel, dans la mesure où je suis riveraine et que mon logement est vraiment aux abords de ce bois, notamment d'ailleurs... les premières années où, avant d'être à Saint-Victor, je résidais même dans la maison du plateau. J'étais là vraiment à l'orée du bois.
Alors, nous, on est arrivés, mon mari et nos enfants, en 2017, donc il y a 7 ans, pour reprendre le centre équestre et relancer les activités qui avaient cessé un an auparavant. Dans les activités qu'on a relancées, il y a toute une partie liée au handicap, avec des séances d'équithérapie, d'équitation adaptée, des cours d'équitation aussi, des stages sur les vacances scolaires. On peut être amené à aller dans le bois, notamment sous forme de balade, principalement ou pas. C'est très rare qu'on soit sur des allures plus vives. Ça peut arriver un peu trop, le galop c'est très très rare. À l'époque de nos prédécesseurs, il y avait un terrain de cross, notamment ils faisaient de l'obstacle naturel avec un cross dans le bois. Donc ils y allaient, je pense, beaucoup plus souvent que nous aujourd'hui, et puis pas pour les mêmes activités. On a des propriétaires, donc un couple qui ont leur jument en pension chez nous, qui apprécient et qui viennent régulièrement. Alors, Évidemment, pas en automne, hiver, c'est compliqué, mais printemps, été, ils font de l'attelage. Oui, c'est important pour eux.
Voilà, bien avant que vous repreniez, que l'Ermitage soit repris, moi je venais courir ici avant, déjà je faisais du vélo, donc je connais depuis très longtemps. Je venais au Mory avec mon arrière-grand-père ici.
Je m'y promène peut-être depuis une quinzaine d'années, à peu près, 10-15 ans. Au départ de façon très rare, et puis l'avenue des chiens au sein de la famille a fait que ça a accentué les randonnées, les marches, et j'ai découvert le bois, qui était plutôt un bois un peu intimiste, fermé, clos aux usagers, ou en tout cas rare, et puis c'est là où je l'ai découvert, oui.
Mais bon, c'est pas, on vient quand même pas aussi souvent que... qu'on devrait, parce que bon, on va aussi beaucoup de l'autre côté. Et ici, depuis que ça a été racheté, on vient pas semer notre zizanie, quoi. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de quad là-dedans.
Bon, moi, un petit peu comme Jean-Marc au début, puisqu'on faisait nos balades en deux roues, en quatre roues, tous les deux. Je venais pas à la chasse, mais on se faisait des balades. Et avant que ça soit repris par vous, je venais aussi faire des balades, mais marcher, mais jamais toute seule, parce que j'avais un peu peur, parce que je connaissais pas très bien le bois. Et là, maintenant, depuis qu'il a été repris, là, depuis 2020, j'y viens pratiquement deux à trois fois par semaine à me faire mes petites marches.
Pour moi, rien n'a changé. Je continue de pratiquer cette cohabitation, ce parcours, cette découverte. Et oui, en effet, c'est pour moi aussi un terrain d'observation de voir comment évolue la nature.
Moi, rien, parce que j'avais l'habitude de venir et je viens encore, j'ai pour usage de courir dans les bois privés partant du principe que la forêt est à tout le monde. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ne venaient pas et qui viennent maintenant.
Depuis 3 ans et notamment depuis qu'on a donné l'accès aux traces GPS des parcours du trail que l'on a tracé, des personnes viennent s'entraîner, donc des personnes plutôt du coin qui viennent courir ici. Et aussi, quelques semaines, mois avant le trail, on donne accès aux traces GPS. Et l'an passé, c'était assez rigolo, on a croisé plein de personnes qui n'étaient pas du tout du coin, mais qui venaient reconnaître le parcours un mois avant. Donc on se croisait dans le bois quand on était en train de mettre au propre pour que les chemins soient praticables le jour J.
Avant, j'y venais, mais il fallait pas croiser du monde, sinon on savait nous dire qu'on n'avait rien à faire dans le bois.
À la chasse depuis longues années, mais bon, avant on était là-dedans dans ce bois-là au moins 3-4 fois par an, puis maintenant une fois par an quand on organise ça ensemble, quoi, c'est tout.
Ça m'est arrivé une fois au tout début, j'étais avec une copine qui avait un chien. Et il y a un chasseur à qui ça n'a pas du tout plu que les chiens soient en liberté. Et il nous a enguirlandés, vraiment pas sympa.
Déjà, depuis toujours et avant la reprise, pour moi, l'essentiel de mes relations et du partage de ce bois s'est fait vis-à-vis des chasseurs. Ça a toujours été justement une coexistence qui a été régulée, puisque donc depuis très longtemps, les interventions des chasseurs se situaient dans le cadre de journées de battue qui étaient programmées tous les ans et qui étaient donc anticipées et qui donc faisaient que les riverains étaient au fait de l'usage du bois en certaines occasions. À travers cela, d'ailleurs, j'ai appris à beaucoup respecter la manière dont les chasseurs sont intervenaient, la manière dont le respect justement des alentours était maintenu et le respect des habitants entourant ce bois. Étant moi-même détentrice d'animaux, j'ai toujours pu compter sur leur aide et leur soutien. Ayant perdu la trace d'un animal, j'ai toujours eu l'aide très efficace de l'un ou l'autre des chasseurs pour m'aider à pister. Et à plusieurs reprises, j'ai retrouvé des animaux perdus. J'ai pu constater à quel point leur souci aussi va bien au-delà de simplement l'activité de la chasse, mais vraiment du maintien, de la préservation de la vie animale.
C'est-à-dire que c'est devenu un lieu privé. Avant, c'était libre d'accès, c'était ouvert à tout vent. Depuis que ça a été repris, nous, on y vient de moins en moins, parce que je veux dire, il n'y a pas... Comment expliquer ça? On n'a plus la liberté et on a le respect aussi du lieu par lui-même. Donc, on laisse ce lieu aux gens qui le gèrent et puis c'est tout, quoi. On a suffisamment d'autres massifs à visiter, hein.
Moi, au contraire, je suis un peu plus positive que Jean-Marc, parce que moi, j'y trouve que des avantages depuis justement que ça a été bien repris et réaménagé. Parce que pour les promeneurs, les balades, la marche, c'est top, quoi.
Ouais.
C'est propre, c'est bien entretenu, c'est rassurant. J'y viens toute seule, vraiment sans aucune appréhension. J'ai pas peur.
Oui, c'était plus informel parce que, en fin de compte, il y avait moins de monde sur l'ermitage qui se promenait les jours de chasse et tout ça. Donc, on chassait un peu comme on en avait envie. Les jours, ce n'était pas forcément prévu. On arrivait, hop, on se mettait à chasser et tout. Aujourd'hui, il faut que ça soit bien organisé, bien préparé. Parce qu'au mesure, en fonction de la sécurité, surtout, il faut savoir que le bois de l'ermitage, il est quand même sur une butte. Et le village, il est tout le tour en contrebas. Donc, c'est très difficile à chasser. Il faut prendre beaucoup de précautions.
Depuis que ça a été privatisé par l'ermitage, bon, par respect, si vous voulez, de ne pas venir comme ça s'imposer, nous, on va ailleurs. Sur le clos bouché, tout ça, on peut aller chasser le pigeon et tout, mais comme c'est relativement près, moi, je ne viens plus. Au bûcheronnage, oui et non, c'était surtout des gens qui venaient pour nettoyer, récupérer des branches, faire du bois de chauffe, quoi. Et sans en faire une gestion du massif. Parallèlement à ça, il y avait donc une autre activité très courue dans le coin, c'était au mois de mars, avril, mai, les gens qui allaient au Morille. Bah là, il n'y a plus personne qui va, hein.
Il y a quelques personnes, je pense. Mais
beaucoup moins qu'avant.
Beaucoup moins qu'avant.
Ah oui, exactement.
Parce que dans la tête de beaucoup de gens, le bois est privé maintenant. Ça a été clair que le bois est à tout le monde et que quand on a envie d'aller s'y promener, de marcher, le traverser, on a le droit. Parce qu'il y a une petite barrière, justement, c'est pour les deux roues ou les quads, tout ce qui est à moteur, mais tout le monde peut...
Faut respecter le lieu, c'est tout.
Nous, ce qu'on apprécie, c'est qu'il n'y ait pas de moteur, qu'il n'y ait pas de moto. Ça, c'est forcément les chevaux, ils ne sont pas copains avec ces animaux-là. Ça ne m'est pas arrivé de croiser des chiens qui sautent sur mes chevaux. Dans ce cas-là, les promeneurs tiennent leurs chiens et puis on se croise comme il faut, quoi.
Jusqu'à présent, ça se passe bien. J'ai même rencontré des chevaux où, par moments, un peu surprise parce que mince, il y a un cheval et je ne les avais pas vus. Et au final, super sympa. Et... Non, vraiment, pour le moment, aucun souci, tout le monde s'entend bien. Il y a de bons échanges et quand on croise quelqu'un, justement, souvent, c'est propice à la discussion.
Quand je suis dans le bois que je suis en train de travailler, je fais le bûcheron, il y a des gens qui se promènent, je m'arrête de travailler et je discute. Ça serait d'un autre bois, j'aurais pas l'occasion de rencontrer ces personnes-là. Et puis, je suis quelqu'un qui est assez ouvert au dialogue, alors, donc j'en profite un peu aussi.
Donc j'ai connu un bois qui était plutôt sauvage, où les chemins étaient très étroits, voire fermés, on découvrait un petit peu le bois. C'est vrai que depuis quelques années, eh bien, ils se sont un petit peu plus ouverts, on rencontre un petit peu plus d'usagers, ce qui est tout de même agréable, donc des marcheurs, des coureurs.
Quand on est arrivé, c'était un peu une friche. Là, on voit qu'il y a un travail de réflexion qui est fait... sur les espèces à maintenir, les espèces à couper.
Il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup de choses faites. Avant, il y avait des endroits, il y en a toujours qui sont...
Qui étaient inaccessibles.
Inaccessibles.
Ouais.
ça s'est bien, ça a bien été nettoyé. C'est bon, ça n'a rien à voir. Il y a 10 ans en arrière, c'était pas comme ça. Hein.
Il y a beaucoup plus de gens qui profitent du bois aujourd'hui. Aussi bien les promeneurs que les gens qui font du VTT, qui font des randonnées et tout, les courses pédestres entre autres. Et puis voilà quoi. Et donc il y a plein de monde qui se promène aujourd'hui avec les chiens parce qu'ils peuvent les lâcher, les laisser en liberté et tout. Donc c'est un bois qui plaît beaucoup, quoi, de plus en plus.
Il n'y a plus aussi à voir dans le bois des différentes activités pour réveiller le bois, pour nous faire réfléchir sur ce bois-là. Donc c'était agréable.
C'est quand même un super espace pour pouvoir faire partir plus de 800 personnes au même endroit. Et au-delà du bois, c'est aussi le tiers-lieu qui est attenant au bois, qui permet quand même d'avoir une logistique, des valeurs portées qui se retrouvent dans celles du bois trail.
On a fait les choses à l'envers. Souvent, les événements sportifs et ou culturels, ils sont créés par un groupe de personnes qui sont soit constituées en association ou en collectif et qui sont désireux d'organiser un événement sportif ou culturel. Ben nous, c'est l'inverse. C'est le pareil que l'on a fait, c'est que c'est l'événement en tant que tel qui a formé un groupe de personnes qui reviennent tous les ans, soit pour participer, soit pour aider dans la préparation en amont, notamment la préparation des sentiers dans le bois, mais aussi dans les bois des alentours, et qui viennent marcher ou courir le jour J. Et ce collectif, il est solide parce que là, on est en plein dans les préparatifs de la 3e édition. Et les gens ont tout de suite répondu présent. Bah, très vite, on soulève 80 bénévoles sans que ça pose de problème. Et ce groupe de bénévoles du trail s'est formé parce qu'on a eu pour volonté de solliciter les différentes associations de la vallée et sans exclure personne. Et Daniel, il fait partie des chasseurs et des pêcheurs de Haute-Reiche et il a répondu présent avec grand plaisir lors des 2 dernières éditions. Et lorsqu'on met en place des chantiers participatifs et qu'il peut être là, il est là.
Oui, je suis un petit bénévole sur l'Hermitage, je ne suis pas un grand bénévole, je suis un petit. Je viens couper du bois, là je vais refaire une coupe dans peu de temps. Là, donc je dirais que quand il y a l'occasion puis que je peux donner un coup de main sur l'Hermitage, j'hésite pas.
Je trouve que la charte, elle était très intéressante déjà pour pouvoir réfléchir sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait dans le bois, ce qu'on y pratique et si finalement ça respecte aussi les autres usagers. Ça, c'était important et que ça respecte aussi le bois en lui-même. Donc la charte, je l'ai aimée, je la lis quasi moins à chaque fois que je vais dans le bois quand même. Je la regarde et je me dis « Ah, ok ». Et maintenant, le bois... je l'aime un peu sauvage quand même, hein. Donc désusagé, oui, mais pas trop. Hein.
Cette cohabitation continue d'être régulée, maintenant donc avec la rédaction d'une charte, dont je sais qu'elle travaille à positionner les différents usagers dans le respect des droits et devoirs de chacune de ces catégories.
Il y a, je dirais, une charte qui a été mise en place et qui met tout le monde au courant de ce qui se fait et de ce qui se passe. Et les jours qu'on chasse, on s'est organisé avec l'Hermitage, avec Jean, ça se passe très bien. Je fais bien souvent l'intermédiaire entre Jean et Luc Caron, notre président. Oui, ça a amélioré parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des discussions qui se font au préalable avant de chasser. Et, tout le monde est au courant qu'il y a une chasse le jour où on le décide, ou bien souvent même à les programmer.
Je ne me rends pas trop compte de tout ce qui est fait. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, et moi, j'en perçois une toute petite partie, quoi. Mais parce que j'ai la tête dans le guidon et que j'ai pas, tu vois, les ateliers, j'ai pas eu le temps d'y participer, et que voilà.
C'est vrai que si jamais ça attire de plus en plus de personnes, c'est bien d'avoir mis cette charte en place. Pour, il y a un règlement, il y a une charte quelque part.
Pour moi, je pense que cette reprise assure une certaine continuité, mais peut-être en régulant davantage maintenant l'ouverture et la participation à d'autres catégories de personnes.
J'ai rencontré les différents bûcherons. Il faut savoir que quand on a des animaux, ben, on arrive plus facilement à communiquer. J'ai aussi pu comprendre comment pouvait fonctionner un bois, ce que je n'avais pas du tout la notion avant. L'intervention extérieure est importante, de comprendre pourquoi on garde telle essence et pourquoi pas d'autres, pourquoi il y en a qui sont en danger et d'autres qu'il faut plutôt minimiser. Donc ça, c'était très intéressant.
Notamment quand les barrières de blocage ont été faites à l'entrée. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant parce que les premières n'étaient pas du tout compatibles avec les chevaux. Et effectivement, ça a été repensé pour que ce soit aussi facile d'accès, tout en bloquant l'accès aux engins motorisés, quoi.
Ce WhatsApp de partage bois de l'Ermitage permet vraiment une information et une concertation des usagers, des riverains, qui pour moi est absolument essentiel.
Quand il y a des activités liées à ACTED, par exemple au niveau de l'Ermitage, on est prévenu. Dans ce cas-là, moi je sais que c'est un moment où j'y vais pas.
Il y avait une vraie évolution dans votre communication, de façon très positive. C'est-à-dire qu'au départage, on venait dans le bois, on allait à l'Ermitage, on connaissait peu de monde, on ne savait pas qui faisait quoi, comment. Et en fait, vous avez vraiment, au fur et à mesure des mois et des années, mis certainement beaucoup d'efforts aussi à communiquer, à vous présenter, à nous expliquer ce qui se passe. Et vraiment, ces trois dernières années, ça a une évolution très favorable par rapport à cela.
C'est très bien parce qu'en fin de compte, nous, chasseurs, on vient faire une journée de travaux au niveau de l'Ermitage. C'est une journée qui est prévue dans la charte. Et donc, c'est une journée de convivialité, je pense, parce qu'on se retrouve avec les chasseurs et, je dirais, les gens de l'Ermitage. Et c'est une journée qui est agréable à vivre. Quand on fait une journée de travaux au niveau de l'Ermitage, c'est des travaux que vous n'avez pas à faire. Souvent, c'est un gros chantier qu'on attaque et puis on vient l'attaquer à 10 ou 15 personnes. C'est sûr que c'est plus facile que faire ça personnellement, quoi.
On a créé un nouveau chemin l'an passé, par exemple, en constituant des SH. Donc ça, c'était un chouette moment de partage pour le trail, mais pas que, puisqu'il y avait des gens qui ne faisaient pas forcément partie des bénévoles du trail qui sont venus donner de leur temps. Voilà. Il faisait beau. Donc c'était un moment agréable de partage qu'on a tous terminé au bar et pour certains qu'on a prolongé l'après-midi dans les ateliers et notamment dans le garage pour visser des flèches pour le trail.
Il faut savoir que notre petit rituel, c'est quand même le tour du bois, le petit télécrochet pour aller boire notre petit café à la Ermitage. Donc forcément, on rencontre des gens, on crée des liens, on apprend des choses. Enfin, non, il n'y a pas que cette promenade de bois intra-bois et extérieur. Mais c'est surtout cette pause à la Ermitage qui est importante. Et quand je passe et que c'est hors horaire, je suis déçue. Parce que je sais que je peux rencontrer des gens et ils viennent vers nous et ils discutent. Et c'est très porteur.
Ah, c'est un peu difficile comme question parce que est-ce qu'on peut faire communauté autour d'une forêt qui, pour moi, est un lieu ouvert et à tous, tu vois, c'est un peu comme si tu me demandais est-ce que tu te sens faire partie d'une communauté parce que tu respires l'air qui est là, tu vois. Pour moi, la forêt et les lieux où on peut passer, voilà, ça fait partie de notre patrimoine et c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Après, la volonté de prendre soin d'un endroit, de le surveiller face aux aléas climatiques. Oui, on est plus prévenu de si on peut passer ou pas. Puis quand c'est dans un mauvais état, on prend soin du lieu en envoyant tout de suite des photos aux responsables forestiers. Donc en effet, c'est mieux entretenu que dans certains autres endroits. Mais est-ce que ça en fait une communauté? Je ne sais pas.
Je ne dirais pas forcément une communauté. Je dirais un groupe, une c'est pas une association, mais presque. En fin de compte, en faisant partie de la commune, ça fait partie du village. Donc, c'est quand même bien de venir participer, alors qu'on profite aussi du bois pour tout un tas de choses, hein, aussi bien pour les promenades que pour la chasse, que tout ça. Alors donc, ça me paraît tout à fait logique qu'on vienne participer à ce genre de travaux, quoi.
Je pense, à force, mais peut-être parce qu'on ne croise pas encore assez de personnes, au final. Peut-être que si on croisait vraiment régulièrement tous les jours quelqu'un avec qui tous les jours tu discutes et t'échanges, là tu aurais peut-être plus l'impression de faire partie d'une communauté.
Oui, dans la place qu'on nous donne, qu'on nous propose en tout cas de prendre, mais c'est vrai que je pense qu'on la saisit pas, peut-être à sa juste valeur, mais ça encore une fois c'est vraiment par manque de temps et qu'en fait on peut pas tout faire, quoi.
Oui, j'ai toujours eu ce ressenti, Mais il est vrai que maintenant, il est plus formalisé, il s'exprime davantage. Plutôt que vécu isolément, il est en effet, ce vécu-là est plus partagé.
Oui, parce que je peux être amenée à ce que ça me manque. C'est-à-dire quand ça fait très longtemps, ça fait 2-3 jours que je n'ai pas pu passer au café ou que je ne suis pas allée dans le bois, eh bien ça me manque. Donc à partir du moment où ça manque, c'est qu'on a besoin de ce lien, on a besoin de rencontrer des gens, de se poser. Oui, c'est... Le mot communauté, c'est à la fois moi, les gens qui sont dans le bois, les gens qui sont à la Mermitage, les gens qui sont sur ce site, le village entier. Enfin voilà, le mot communauté, c'est et tous les villages autour et la vallée d'Osier. Enfin voilà, c'est ça cette communauté en fait. C'est tous les gens qui contribuent à ce que ça vive.
En rassemblant ces témoignages et me remémorant tout ce que nous avons vécu avec tant d'autres depuis 3 ans, je pense à Andrei Tarkovski. Il a écrit que les hommes ne sont pas seuls et abandonnés dans un univers vide, mais qu'ils sont reliés par d'innombrables liens au passé et à l'avenir, et que chaque individu noue, par son destin, un lien avec le destin humain en général. J'ai l'impression de rentrer dans l'épaisseur de ce qui nous unit. Et j'ai aussi envie de vous interroger sur l'avenir, vos espoirs, vos rêves, nos défis et la forêt dans tout ça.
Alors maintenant le défi, comment le bois va survivre au changement climatique? Parce que les sols sont pauvres, les peuplements sont pauvres, les essences, elles sont peu mélangées. Donc, on a un patrimoine d'arbres qui est en grand danger. On est en gériatrie avancée. Et donc, le problème, c'est dans 30 ans qu'il y ait un peuplement mélangé qui survive à tous les changements climatiques. Ça, c'est le challenge. Voilà, c'est le challenge pour moi et puis avec l'aide de tous les ermitageux.
J'apprécie en effet énormément le fait de savoir que ce bois compte maintenant sur la gestion d'un expert forestier comme Jean-Marc Penaud et que ça, c'est une garantie de la préservation de ce milieu. En effet, ça s'exprime davantage maintenant. Comme il y a une ouverture plus grande à un certain nombre d'usagers, cette prise de conscience de la nécessité de préserver la santé de ce bois et j'imagine, je pense, davantage partagé.
Déjà, on a un ingénieur forestier qui, lui, nous dirige, et donc on ne fait pas n'importe quoi. Donc automatiquement, le bois en prend soin et sa santé aussi. On élimine le bois mort, on élimine les arbres qui penchent, qui sont prêts à casser ou un truc comme ça. Donc je pense qu'on l'aère et puis ça aide la régénération à repousser, à redémarrer. Et en prélevant des animaux, le peu qu'on prélève, parce qu'on n'est pas non plus à faire des gros quotas, mais les chevreuils, on sait qu'ils aiment bien les jeunes pousses et tout ça, alors donc si on prélève quelques chevreuils, bon, bah, automatiquement, ça permet à la régénérescence sous bois de repousser. Quoi.
Finalement, alors bon, c'est sûrement très personnel, mais j'aimerais quasiment en savoir plus sur le bois. J'aimerais avoir plus de connaissances sur les essences, sur le bois, sur les arbres, sur la végétation, sur que va devenir ce bois, côté végétal et faune-flore d'ailleurs, les deux, dans les 10-15 ans à venir en fait. Mais j'aimerais bien voilà, comprendre les enjeux dans les 5, 10 ans, 20 ans, voire 50 ans dans ce bois. Comment il va se transformer par rapport aussi au climat?
Les leitmotivs depuis notre installation, c'est le bien-être animal. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement pour les chevaux, beaucoup de réflexion, de formation. Et vraiment un point fondamental dans notre organisation, dans le respect de l'animal. Et quelque part, si on élargit le respect de la nature, le fonctionnement, l'harmonie, là on se retrouve complètement avec le fonctionnement, j'ai l'impression, qui est donné dans le bois.
Qu'il soit prospère au sens écologique du terme, c'est-à-dire qu'il ait assez d'eau pour se développer, qu'on ait suffisamment bien fait notre travail d'intervention humaine pour lui faciliter sa régénération et qu'on continue dans 25, 30, 40 ans à avoir un beau bois divers, ce qu'on appelle un bois mosaïque.
L'installation de planteurs est une bonne nouvelle pour nous parce que va arriver des gens qui vont élever les arbres sur une partie du domaine. Donc on va forcément acquérir du savoir-faire avec les gens qui vont être autour de planteurs. Et nous, on en bénéficiera soit sous forme d'essai, soit sous forme d'expérimentation pour essayer de franchir les années qui nous rapprochent d'élévation de température rapide. Quoi.
Mon rêve, c'est que si demain, on a un problème économique sur la... qu'en fait, le bois, il soit tellement important pour les habitants qu'il soit pas vendable, quoi. Qu'il puisse pas revenir dans une forme de propriété privée exclusive, d'usage exclusif. Que l'usage collectif s'impose en disant non, c'est un bien commun, pas question de le vendre, c'est beaucoup trop important pour nous, et que tous les gens soient d'accord, donc qu'ils soient tous dans la coopérative et que du coup ce soit plus important pour eux que. Enfin, ce soit très important pour eux, plus important, je sais pas, mais très important, tu vois. Que pour le centre équestre, ce soit vital. Que ce soit vital pour eux. Ça, c'est, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps.
On nous demande souvent quel est notre impact. Je n'aime pas ce mot. Tout, ici, nous parle de rencontres, d'incompréhensions parfois, mais aussi de fêtes, de moments partagés. En fin de compte, tout simplement de la vie et de ce qui nous est nécessaire pour la traverser ensemble et la transmettre. Oui, tout ici nous parle de quelque chose de vital, que nos rencontres autour du bois savent nous rappeler. C'est fragile, nous cherchons encore, mais de plus en plus, ensemble et dans l'action. Et c'est peut-être cela, le pouvoir d'agir en tiers lieu.
On pourrait faire, je sais pas moi, une petite fête du printemps par exemple, ou plus dans l'été, faire un barbecue un peu plus grand encore, et puis inviter des gens.
Il y a tellement de choses à faire là.
On a besoin de continuer à avoir des nouvelles générations à qui on doit apprendre la nature.
J'ai dansé avec les enfants du stage.
Les enfants d'Autrèche viennent et découvrir tout ce qui...
Le deuxième défi, c'est celui-là, c'est embarquer les jeunes et les former.
C'est vraiment un super souvenir.
Pour les 3 ans de mon fils.
Je les vois encore tous les deux dans la benette de mon tracteur.
Peut-être des petits bancs au soleil pour pouvoir se poser au soleil quand il fait un beau rayon de soleil.
Une sorte de chasse au trésor.
Il y a des enfants qui m'en parlent encore.
Je sais pas, un petit parcours de santé ou un truc comme ça qui attirerait encore plus de monde.
Avec le fait d'avoir le tiers-lieu de l'Ermitage, que ce soit les bâtiments mais aussi une équipe derrière, oui, ça peut aider à faire prendre vie à nos projets.
Les feuilles qui tombent, les couleurs des arbres et tout, c'est vraiment très beau. La nature, elle est très belle. Il faut la protéger.